Ma sœur naquit et mon frère suivit sans tarder. Je ne saurais dire exactement à quel intervalle. Les jours divins s'écoulent à la vitesse de l'eau qui tombe d'une cataracte, et je n'avais pas encore appris le tour mortel qui consiste à les compter. On aurait pu croire que notre père nous aurait mieux éduqués sur ce point, car après tout, il est témoin de chaque lever de soleil. Mais même lui avait l'habitude de dire que mon frère et ma sœur étaient jumeaux. Et de fait, dès l'instant où ils se virent, ils furent aussi collés l'un à l'autre que deux visons. Mon père les bénit tous deux d'une seule main. « Toi, » dit-il à ma sœur, « la lumineuse Pasiphae, tu épouseras un fils éternel de Zeus. » Il avait parlé de sa voix prophétique, celle qu'il prenait pour énoncer des certitudes futures. Ma mère rayonna à cette déclaration, pensant déjà aux robes qu'elle porterait aux fêtes de Zeus. « Et toi ? » lança-t-il à l'intention de mon frère, de sa voix habituelle, aussi sonore et claire qu'un matin d'été, « tous les fils sont le reflet de leur mère. » Cette phrase-là plut aussi à ma mère, qui l'a prit pour une permission de choisir son nom. Elle l'appela Persès, en hommage à elle-même. Comme ils étaient malins, ces deux-là appréhendèrent rapidement la situation. Ils adoraient se moquer de moi derrière leurs pattes d'hermine. « Ses yeux sont jaunes comme de la pisse, sa voix crisse comme celle d'une chouette. On l'appelle faucon, mais on devrait plutôt dire chèvre, tellement elle est laide. » Il s'agissait de leur première tentative de pique, encore un peu émoussée, mais plus acérée de jour en jour. J'appris à les éviter, et ils trouvèrent bientôt des activités plus intéressantes auprès des bébés naïades et dieux fleuves du palais d'Océan. Quand ma mère se rendait chez ses sœurs, ils la suivaient, établissant leur domination sur tous ses cousins influençables, hypnotisés tels du menu fretin devant la gueule d'un brochet. Ils avaient inventé une centaine de jeux pour tourmenter les autres.
« Viens, Mélia, » disait-il d'une voix douce. « C'est la mode sur l'Olympe de se couper les cheveux au niveau de la nuque. Comment arriveras-tu jamais à attraper un mari si tu ne nous laisses pas le faire ?»
Lorsque Mélia, découvrant qu'elle était tondue comme un hérisson fondait en larmes, ils riaient à en faire résonner les cavernes. Je les laissais à leur jeu. Je préférais le calme des salles de mon père et passais si possible chaque seconde à ses pieds. Un jour, peut-être en guise de récompense, il m'emmena inspecter son troupeau de vaches sacrées. C'était un grand honneur, signifiant que j'allais monter dans son char doré et voir ces animaux qui faisaient l'envie de tous les dieux, 50 génisses d'un blanc immaculé qui enchantaient son regard lors de son trajet quotidien au-dessus de la terre. Je me penchai par-dessus les bords incrustés de bijoux du char pour admirer avec émerveillement le monde qui défilait au-dessous de nous. Le riche vert des forêts, les montagnes dentelées et la vaste étendue bleue excentrée de l'océan. Je cherchais des mortels, mais nous étions trop hauts pour les voir. Les troupeaux vivaient sur l'île verte de Trinakié, surveillée par deux de mes demi-sœurs. À notre arrivée, ces dernières coururent vers mon père pour se pendre à son cou, à grand renfort d'exclamations. De tous ces magnifiques enfants, elles faisaient partie des plus belles, avec leurs cheveux pareils à de l'or fondu, ainsi que leurs yeux. Leurs noms étaient Lampétia et Phaétouza, la radieuse et la rayonnante.
« Et qui as-tu donc amené ? Ce doit être une fille de Persée, tu as vu ses yeux ? Bien sûr !»
Lampétia, je crois que c'était elle, me caressa les cheveux.
« Ma chérie, il ne faut pas que tu t'inquiètes à cause de cela, pas du tout. Ta mère est très belle, mais elle n'a jamais été puissante. »
« Ils sont comme les vôtres, » répondis-je.
« Que c'est mignon ! Non, ma chérie, les nôtres sont aussi éclatants que le feu et nos cheveux ressemblent aux reflets du soleil sur l'eau. »
« Tu es futée de garder tes cheveux nattés, » renchérit Phaétouza. « Tes mèches brunes ne font pas si mauvais effet comme cela. Dommage que tu ne puisses pas cacher ta voix de la même façon. »
« Elle pourrait ne jamais plus parler, Ce serait pratique, tu ne trouves pas, ma sœur ?
Mais oui.
Elles sourirent avant de reprendre.
Et si nous allions voir les vaches ?
Bien que je n'aie jamais vu de vaches auparavant, et d'aucune sorte, c'était sans importance. Ces animaux étaient d'une beauté si manifeste que je n'avais pas besoin de point de comparaison. Leur pelage était d'un blanc aussi pur que des pétales de lys et leurs yeux doux bordés de longs cils. Leurs cornes avaient été dorées, c'était l'œuvre de mes sœurs, et, lorsqu'elles se penchaient pour brouter l'herbe, leur cou s'incurvait comme celui d'une danseuse. Dans la lumière du crépuscule, leurs flancs luisaient d'un éclat doux.
« Oh ! » m'exclamai-je. « Je peux en toucher une ?»«
Non !» intervint mon père.
« Pouvons-nous te dire leur nom ? Celle-ci, c'est Museau Blanc, et celle-là, Regard Vif et Chéri. Et voilà Belle Demoiselle, jolie, corne dorée et rayonnante. Il y a Chéri et aussi...
« Tu m'as déjà montré Chéri ?» l'interrompis-je.
« Tu as dit que c'était celle-là. »
Je désignai la première vache qui broutait paisiblement. Mes sœurs s'entre-regardèrent, puis regardèrent mon père d'un seul coup d'œil doré. Ils contemplaient distraitement ces vaches dans toute leur splendeur.
« Tu dois te tromper !» répliquèrent-elles. « Chéri est celle que nous venons de te montrer, et celle-là, c'est Étoile Scintillante, et celle-là, Éclair, et... »
Mon père demanda soudain.
« Qu'est-ce que c'est que ça ? Jolie à une croûte ?»
Mes sœurs furent immédiatement sur le qui-vive.
« Quelle croûte ! Oh, ce n'est pas possible ! Oh, méchante Jolie de t'être fait mal ! Oh, la méchante chose qui t'a fait du mal !»
Je me penchai plus près pour voir. C'était une toute petite croûte, plus petite que le plus petit de mes ongles, mais mon père fronçait les sourcils.
« Vous allez réparer ça avant-demain. »
Mes sœurs hochèrent la tête.
« bien sûr, nous sommes tellement désolées. »
Nous remontâmes dans le char, dont mon père saisit les rênes à bout argenté. Lampétia et Faétouza posèrent quelques derniers baisers sur ses mains et les chevaux bondirent en avant, nous propulsant à travers le ciel. Les premières constellations pointaient déjà leur nez à travers la lumière faiblissante. Je me souvins que mon père m'avait un jour raconté qu'il existait sur Terre des hommes appelés astronomes, dont la tâche était de suivre le lever et le coucher du soleil. Les mortels les tenaient en très haute estime, et ils habitaient des palais où ils conseillaient les rois. Mais parfois mon père s'attardait sur une chose ou une autre et les désespérait en faussant tous leurs calculs. Après quoi, ces astronomes étaient traînés devant les rois qu'ils servaient et exécutés pour charlatanisme. Mon père souriait en me racontant cette histoire.
« Il l'avait bien mérité, » dit-il.
Hélios le soleil n'obéissait à aucune volonté à part la sienne et personne ne pouvait prédire ses actes.
« Père, m'inquiétais-je, sommes-nous suffisamment en retard pour tuer des astronomes ?»«
En effet, »
répondit-il en secouant les rênes qui tintèrent joyeusement. Les chevaux bondirent de nouveau en avant, et le monde au-dessous de nous se brouilla tandis que les ombres nocturnes s'élevaient en fumant à la lisière de la mer. Je ne regardais pas. Une sensation oppressante avait envahi ma poitrine, comme si l'on tordait un chiffon. Je pensais à ces astronomes. Je les imaginais rampant tels des vers de terre, affaissés et courbés. « S'il vous plaît, suppliaient-ils à genoux sur leur rotule osseuse, ce n'était pas notre faute, le soleil lui-même était en retard. »«
Le soleil n'est jamais en retard, » répondaient les rois du haut de leur trône. « C'est un blasphème d'affirmer une chose pareille, alors vous devez mourir !»
Et les haches s'abattaient, coupant en deux ces hommes suppliants.
« Père, » annonçai-je, « je me sens bizarre. »«
Tu as faim, » m'expliqua-t-il. « L'heure du banquet est passée. Tes sœurs devraient avoir honte de nous avoir retardés. »
Ce soir-là, je mangeais de bon appétit, et pourtant la sensation subsista. Je devais avoir une expression bizarre, car Persès et Pasiphaé se mirent à ricaner depuis leur banquette.
Tu as avalé une grenouille ?
Non, protestai-je.
Ils rirent de plus belle à ma réponse, se câlinant mutuellement, leurs bras et leurs jambes enlacés comme des serpents polissant leurs écailles. Puis ma sœur s'enquit.
Et comment étaient les génisses dorées de père ?
Magnifique !
Persès éclata de rire.
Elle ne sait rien. As-tu déjà vu quelqu'un d'aussi stupide ?
Jamais,
renchérit Pasiphaé. Je n'aurais pas dû poser la question, mais j'étais toujours plongée dans mes pensées, imaginant ces corps sans tête sur le sol de marbre.
Qu'est-ce que je ne sais pas ?
Ma sœur et son visage parfait de vison.
Qu'il les baise, évidemment. C'est comme ça qu'il en a de nouvelles. Il se transforme en taureau et leur fait des veaux, et ensuite, il fait cuire celles qui sont trop vieilles. Voilà pourquoi tout le monde pense qu'elles sont immortelles. C'est faux !
Ils hurlèrent de joie en montrant du doigt mes joues écarlates. Le bruit attira ma mère. Elle adorait les farces de mes frères et sœurs.
Nous mettions Circé au courant à propos des vaches, lui expliqua mon frère. Elle ne savait pas.
Le rire de ma mère, aussi cristallin qu'une fontaine qui s'écoule sur des rochers.
Quelle pauvre idiote, cette Circé!
C'est ainsi que se passait ma vie alors. J'aimerais pouvoir dire que, pendant tout ce temps, j'attendais l'occasion de m'échapper. Mais en vérité, j'ai bien peur de m'être laissé porter, persuadée que ces ternes misères étaient tout ce qui m'attendait jusqu'à la fin du monde.